C'est depuis Tunis que je vous parle à nouveau cette semaine. L'atelier s'est installé dans les locaux flambant neufs de Cogite, au centre-ville de la capitale tunisienne. C'est dans cet espace de travail collaboratif, on dit aussi de coworking, que s'est tenue durant 5 jours la première formation Arablog. Arablog, c'est la petite sœur arabophone de Mondoblog. Nous profitons de la présence de nos deux modératrices, Raja et Julnar, et de 20 blogueuses et blogueurs venant de 10 pays du monde arabe pour mieux vous faire connaître ce projet et surtout ses contributeurs.
L'atelier des médias, la web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon De Creuse.
Et vous.
Arablog est né il y a maintenant 6 mois. Le projet est appuyé par le fonds Epticar de l'Union Européenne et par CFI, l'agence de coopération média de l'État français. Comme pour Mondoblog, le projet a pour objet de faciliter l'émergence de blogueurs responsables et talentueux dans l'océan de l'Internet. La formation qui accompagne ce média est un moment crucial pour le renforcement des capacités de chacune et chacun et pour souder la communauté. Rappeler qu'il y a de la vie derrière les écrans. Pour la partie studieuse de cette formation, j'ai été appuyé par Simon De Creuse, qui est actuellement aux manettes, Julnar Douek et Raja Yahyaoui, animatrice, modératrice et éditrice d'Arablog, ainsi que Jamel Belayachi, des observateurs de France 24 en arabe. Les blogueurs ont également reçu une formation photo avec Sophia Barakat, sécurité informatique avec Ayman Djerbi de DSS 216, ainsi qu'une formation en technique d'enquête et de construction d'histoire, on dit de storytelling, avec Walid Mejri et Elige Sahiri d'Inkifada. À en juger par les sourires et la bonne humeur générale, ces quelques jours ont été bénéfiques dans une période où, à l'exception peut-être de la Tunisie, il y a peu de signes encourageants pour l'avenir du monde arabe.
أنا فؤاد مسعد صحفي مراسل وكالة الأناضول ومدون من اليمن.
تاليا رحمة لبنان Global Voices.
علاء شهيب من لبنان مهندس ديكور وصحافة.
غبولي زلابيدين من الجزائر مدون وناشط في حقوق ونشط حقوق ونشط حقوق الإنسان.
تحسين الزرقاني صحفي ومدون من العراق.
إيميل مجري من تونس مدونة ومذيعة.
صلاح الدين حميدي من المغرب مدون ومبرمج.
تسنيم عادل من مصر معدد برامج تلفزيونية وبدون.
سناء مبارك من اليمن طبيبة وكاتب.
نبيل بكاني من المغرب مخرج وناشط حقوق إنسان ومدون.
Pour faire connaissance avec Arablog, nous avons réuni 6 contributrices et contributeurs de la plateforme. Étant malheureusement un piètre arabophone, j'ai reçu l'aide de toute l'équipe pour préparer ces entretiens, et particulièrement de Jamel Belayachi qui est avec moi. Salut Jamel.
Salut Ziad.
Rached Chérif du Courrier de l'Atlas a accepté d'assurer la traduction pour nous. Merci Rached. Bonjour Ahlam El Badri.
Marhaba.
Tu es originaire de Benghazi en Libye. En plus de tes écrits sur Arablog, tu publies sur la plateforme LibyaBlog, un projet que nous avons lancé il y a 2 ans avec les observateurs de France 24. Sur Arablog, ton site a pour nom des rêves sur la plage d'Al-Manara.
أحلام على شاطئ المنارة اخترت هذا الاسم لمدونتي.
Alors j'ai choisi le nom de ce site en référence au nom historique de Benghazi, à l'identité également de la ville et surtout parce que j'habite à proximité de cette plage.
La plage d'Al-Manara. Tu as eu beaucoup de difficultés pour venir à cette formation à Tunis à cause des affrontements entre les forces pro-gouvernementales et des milices islamistes dans la région de Benghazi. Est-ce que tu peux nous expliquer à quel point ça a été difficile ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
En recevant cette invitation à la formation, j'ai rencontré des difficultés pour m'y rendre, notamment en raison de la situation sécuritaire à Benghazi et en raison de la fermeture de la plupart des agences de voyage. Je me suis donc rendu dans un premier temps dans la ville de Baïda, à l'est de Benghazi, pour y trouver un moyen de transport, et c'est dans l'aéroport aéroport proche de cette ville que j'ai tenté de me rendre en Tunisie, mais dans le premier avion dans lequel je devais prendre place, ce sont des blessés dus au combat qui devaient voyager vers Tunis. Après avoir patienté pendant 48 heures dans l'aéroport, j'ai pu trouver un moyen de transport. Un avion qui partait à 1h du matin et qui est arrivé à Tunis à 4h du matin.
48 heures dans l'aéroport.
نعم 48 ساعة كنت مصرة على كانت عندي رغبة كبيرة في الحضور.
J'avais vraiment envie d'assister à cette formation qui pour moi était une belle opportunité.
ورسالة زياد معلوف.
Et l'invitation de Ziad Malouf à cette formation m'a encore donné plus de courage pour m'y rendre.
Oui, parce qu'en fait tu m'avais envoyé un message pour t'excuser de pas pouvoir venir et je t'ai dit c'est pas grave si tu arrives tard, essaye quand même de venir quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as vécu pendant 48 heures en attendant dans l'aéroport?
Ça a été des moments vraiment compliqués et je lui ai donné le nom d'un fruit amer. Des proches et des amis de Baïda et de Shahad sont restés en contact avec moi par téléphone et j'ai même quitté l'aéroport à deux reprises pour pouvoir me ravitailler, d'abord me nourrir et également recharger mon téléphone. En plus, l'aéroport a connu plusieurs coupures d'électricité pendant ces 48 heures. Mes parents sont restés en contact avec moi pour me soutenir et m'encourager dans ce voyage.
On se connaît depuis maintenant 2 ans. À l'époque, nous nous étions rencontrés à Tripoli. Depuis, la situation s'est beaucoup dégradée dans ton pays. Comment ça se passe au quotidien pour toi qui vis donc dans la région de Benghazi ?
En 2 ans, la situation politique libyenne a beaucoup changé. La transition politique a été entravée. La Libye s'est divisée entre un gouvernement d'un parti ouest et une guerre contre le terrorisme d'un parti est et un chaos total d'un parti sud du pays. Les frontières ont été ouvertes à tout vent. Et l'autorité d'État a disparu. Il y a une séparation du pouvoir entre un gouvernement reconnu au niveau international et un autre pouvoir sous contrôle des milices. La ville de Benghazi fait la guerre au terrorisme avec l'aide de l'armée et l'aide de la population. Et dans toutes les localités, les gens combattent les milices islamistes d'Ansar al-Shaabia. Les avancées de l'armée contre les terroristes redonnent de l'espoir à la population, même si beaucoup de familles ont fui la région. Beaucoup de bâtiments ont été brûlés et de nombreuses habitations ont été détruites. Les écoles ont fermé. Les universités ont été brûlées. Les habitants de Benghazi restent déterminés à éliminer le terrorisme. Ils doivent faire face aux coupures d'électricité, aux coupures des réseaux téléphoniques et à la pénurie d'essence. Ils font face grâce à la solidarité, avec pour objectif la renaissance de la ville.
D'ailleurs, tu écris, toi, dans tes textes, tu écris sur la situation. Tu as notamment publié ton dernier billet qui s'intitule « Les réfugiés dans les écoles et les écoliers dans la tente ». Tu y parles des familles de Benghazi qui trouvent refuge dans les écoles en raison du conflit, ce qui pénalise évidemment les écoliers qui sont privés de cours depuis début septembre. Ton billet commence comme ça. Jamel va d'abord le lire en arabe pour qu'on écoute la musicalité de la langue et je vais me faire le porte-parole de sa traduction en français.
هذا العام اكتست شوارع المدينة بوشاح أسود عابرا فيه سيل الدم ورائحة الجثث وكمية الرصاص بحدود لا معقول مدارس أصبحت ملجأ للنازحين وأخرى أصبحت كوم رماد وحلم الطلبة في العمق المظلم.
Depuis un an, la ville de Benghazi est recouverte d'un voile sombre d'où s'échappe le sang et l'odeur des cadavres ainsi qu'une quantité astronomique de balles. Des écoles sont devenues des refuges et d'autres sont transformées en tas de fumée. Et les rêves des écoliers sont tombés dans l'obscurité. Quelques mots de commentaire ?
En raison de l'état de guerre à Benghazi, les écoles ont dû être fermées pour des raisons de sécurité. En raison aussi du départ de nombreuses familles, ont perdu leurs habitations et se sont réfugiées dans les écoles. Cette année a été très compliquée pour les élèves et tous les écoliers de Benghazi ont été privés d'école cette année.
comme tous les blogueurs, toutes les blogueuses, Ahlam, tu, derrière la grande histoire, derrière la situation politique, tu aimes aussi raconter la petite histoire, celle des humains, celle du quotidien. Dans un billet précédent, daté du 21 décembre, tu expliques ce qu'est l'agence de presse des toits. Est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est ?
L'agence de presse des toits est une idée de jeunes photographes de la ville de Benghazi. Les toits sont en fait ceux des habitations qui servent normalement d'espace de loisirs où on monte se détendre en buvant du thé. Mais en l'absence totale de médias indépendants, les photographes ont pris en photo les tirs, les avions, les missiles depuis leur toit et publient ces photos sur les réseaux sociaux. Et c'était une excellente idée pour avoir des correspondants dans chaque quartier et ça nous permet de suivre la situation à l'intérieur de nos maisons grâce à ces correspondants de l'agence de presse des toits. Et je souligne qu'une agence de presse internationale reprend les images de notre agence de presse des toits.
Bonjour Anoua Abdelrahmani.
Bonjour.
Tu as 23 ans. Tu viens d'Algérie, toi ?
Voilà.
Ton blog s'appelle « Journal d'un Algérien hors du commun ou atypique ».
J'ai appelé ce site « Journal d'un Algérien atypique » pour m'exprimer sur une citoyenneté véritable, parce qu'aujourd'hui, en Algérie, la citoyenneté est dénaturée, parce que l'Algérien, aujourd'hui, s'intéresse à des sujets qui sont loin de ceux auxquels s'intéresserait un citoyen partout dans le monde. J'exerce modestement ma citoyenneté et c'est en soi un comportement hors du commun en Algérie.
Quand tu dis que la manière dont les Algériens envisagent leur citoyenneté est différente de celle qu'on trouve dans le reste du monde, tu penses à quoi ? Tu t'intéresses à quoi en particulier ? Qu'est-ce que tu souhaites dire par là ?
L'Algérien aujourd'hui ne s'intéresse pas à la politique ou à la vie des partis et cela contribue à un certain gel de la vie politique en Algérie. L'Algérien se concentre aujourd'hui sur ses besoins basiques d'accès au logement et au travail. Le problème, c'est qu'il ne s'agit pas là de citoyenneté, mais de droits fondamentaux. Et j'ambitionne de recentrer le débat sur des questions politiques, de liberté individuelle et de citoyenneté véritable. Parce qu'on ne peut pas imaginer une vraie démocratie sans liberté individuelle.
Et d'ailleurs, pour alimenter le débat, j'imagine, et parce que tu t'intéresses à ce qu'est la citoyenneté, tu focalises beaucoup tes écrits sur les minorités dans ton pays, sur ce qu'on appelle les LGBT, donc lesbiens, gays, bisexuels et transsexuels, voilà, sur les droits de ces personnes-là, et plus généralement sur toute une série de questions qui sont des tabous ou des débats très importants dans la société algérienne ou même dans la société arabe.
Mon objectif en abordant ces sujets est d'apporter une valeur ajoutée parce que les autres sujets ont été largement abordés et à force d'en parler, on n'apporte plus rien au débat. Mon choix de traiter ces sujets sur les minorités, notamment les minorités sexuelles, a pour objectif d'intégrer ces minorités dans la société et de les faire accepter par la société comme ils sont ou comme ils pourraient être.
Tu as d'ailleurs écrit en octobre dernier sur les préparatifs pour l'organisation d'une journée nationale en faveur des LGBT, donc des gays, des lesbiens, bi et trans. Ceux qui soutiennent les LGBT devaient le 10 octobre au soir allumer une bougie pour demander la dépénalisation de l'homosexualité parce que, bien entendu, l'homosexualité est encore interdite et punie en Algérie et dans la plupart des pays arabes.
J'ai donc écrit sur les préparatifs de cette journée pour les LGBT du 10 octobre. J'étais en contact avec les organisateurs. Ils voulaient transformer cette journée en une mobilisation dans la rue. Mais les mouvements religieux extrémistes ont menacé de représailles contre cette journée. Ces menaces causent du tort aux homosexuels. Ces homosexuels qui existent partout dans le monde, on le sait, mais qui vont avoir peur de s'exprimer et de revendiquer leurs droits. Un leader d'un parti religieux non autorisé a émis une fatwa, et il s'appelle Hamadesh, qui a été diffusé sur la chaîne de télé Nahar TV. Cet appel demandait aux Algériens de stopper cette mobilisation. Cet appel a eu des répercussions dans toutes les salles de prière et les mosquées d'Algérie.
Dans tes écrits, tu parles aussi de l'athéisme et tu réclames le droit à l'athéisme. Ça aussi, c'est un tabou très très fort dans le monde arabe. Est-ce que c'est difficile, tu es tout jeune, hein, est-ce que c'est difficile de prendre position ouvertement, tu le fais ouvertement, hein, à visage découvert, dans le cadre de l'Algérie aujourd'hui? Tu ne vis pas, toi, à Alger, tu vis...
J'habite à Cherchel, qui se trouve à environ 100 km d'Alger. En parlant des tabous de la société, l'auteur s'attend au minimum à des conséquences. Mais je me sens responsable de pousser la société à réfléchir sur le droit des individus à penser différemment des autres, parce que nous ne vivons pas comme dans une fourmilière, parce que je suis un être humain et c'est dans la nature d'un être humain d'être différent. La différence n'est pas un crime. Les crimes sont le vol, le mensonge, le meurtre, mais certainement pas la différence.
Est-ce qu'on t'embête pour ces écrits ?
Naturellement, je reçois des menaces qui peuvent se concrétiser. Et pendant 5 semaines consécutives, mosquées de ma ville ont émis des prêches contre moi. Ils utilisent mon activité pour me détruire et retourner la société contre moi. Ce n'est pas une situation digne d'une démocratie et j'estime que c'est vraiment de la bassesse intellectuelle. Et je ne compte pas m'arrêter d'écrire sur ces sujets.
Dans un billet récent, tu écris « Je suis Charlie, je suis Mohamed ». C'est donc le nom du billet. Tu évoques évidemment la tuerie à Charlie Hebdo. Jamel va lire ce que tu as écrit en arabe et je vais traduire en français. La tuerie de Charlie Hebdo a renforcé les extrémismes. En France, certains racistes en ont profité pour stigmatiser la communauté musulmane et dans le monde arabe, les extrémistes, eux, en ont profité pour créer la discorde dans leur pays. Autre extrait, oui, je suis Charlie, donc c'est le titre de ton billet, et je suis Mohamed parce que la caricature n'est qu'une œuvre artistique destinée à faire rire et à amuser. Et quand on lit l'histoire de Mohamed, on se rend compte qu'il était tolérant et acceptait les avis différents du sien ainsi que les autres religions. À propos de tolérance, on raconte que le prophète avait un voisin juif qui jetait tous les jours ses ordures à côté de sa maison. Le prophète ne faisait pas de reproches à son voisin, mais se contentait de prendre les ordures pour les mettre plus loin. Et quand un jour ce voisin est tombé malade, le prophète n'a pas hésité à lui rendre visite. Doit-on sérieusement penser que si le prophète avait vu ces caricatures, elle l'aurait mise en colère ? Moi, je dis qu'il en aurait ri.
Oui, malheureusement, on a vu comme tout le monde les attentats contre Charlie Hebdo en France. Ces événements nous ont révoltés. Avant de révolter également la société française, parce que nous sommes tous des êtres humains après tout, nous n'acceptons pas d'utiliser des armes contre des crayons, parce que le crayon, lui, n'est qu'un instrument d'expression, et les armes, elles, servent à tuer et à détruire. Le rapport de force est disproportionné, le combat ne se fait pas armes égales. À travers son humour, Charlie Hebdo vise à faire rire les gens et non pas à les provoquer. Et critiquer les religions, c'est critiquer des idées, parce qu'après tout, les religions sont elles-mêmes des idées critiquables. Ce n'est pas le prophète Mohamed qui a tué ces gens, ce sont des groupes terroristes qui ont fait ces actes et qui n'ont rien à voir avec les musulmans. Et j'ai vu personnellement ces caricatures de Charlie Hebdo. Je n'y ai pas vu d'insulte au prophète, mais simplement l'expression d'un avis différent. Et la dernière une de Charlie Hebdo montre le prophète, on le voit triste, en deuil, et c'est un message de paix, ce n'est pas un message de guerre. Et nous, en tant que musulmans, nous devons apprendre à tolérer l'avis contraire, quel qu'il soit, et la violence ne sert pas nos idées.
Petite pause dans l'atelier, on se retrouve dans quelques instants. Atelier des médias, nous sommes à Tunis cette semaine au sein de l'espace de coworking, c'est-à-dire de travail collaboratif qui s'appelle Cogit. C'est ici que durant 5 jours, grâce à CFI et l'agence de coopération média française, nous avons pu réunir 20 de nos blogueuses et blogueurs de la plateforme Arablog. Nous sommes en ce moment avec 6 d'entre elles et d'entre eux pour vous faire connaître leurs écrits et leurs préoccupations.
L'atelier des médias. La web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon De Creuse.
Et vous, vous.
Bonjour Sana Moubarak.
Bonjour.
Toi, tu es originaire de Aden, au Yémen. Actuellement, tu vis au Caire, au Kahira, en Égypte. Tu es médecin, pédiatre, et tu es aussi écrivain. Ton blog a pour titre Aden le Caire en marchant sur les plumes, c'est ça?
Oui. اخترت هذا العنوان.
J'ai choisi ce titre.
لأني عشت معظم حياتي.
J'ai vécu une partie de ma vie au Caire.
لكني أنتمي إلى.
Mais j'appartiens toujours à la ville d'Aden au Yémen.
وأنا أدون عن اختلاجات الشارع.
J'écris sur ce qui se passe dans les rues.
طبيعي أن أنقل القصص.
Avec des histoires d'Aden et du Caire.
ومعظم هذه القصص أنقلها.
Et j'écris ces histoires avec ma plume.
فأنا أتنقل بين المدينة.
Et je voyage entre les deux villes avec mon crayon.
C'est pour ça que ça s'appelle Aden le Caire en marchant sur mes plumes. Comment est-ce qu'on peut être médecin et pédiatre dans ton cas et blogueur, et pourquoi tu souhaites, toi, en tant que médecin, j'imagine que tu es déjà très occupé, tenir en plus un blog, ce qui est très chronophage?
Quand on aime faire quelque chose, c'est difficile de dire pourquoi on le fait. Il n'y a pas de contradiction entre exercer une activité au quotidien et faire ce qu'on aime en même temps. Un médecin rencontre toutes sortes de gens et ces personnes inspirent plein d'histoires différentes. Dans les pays arabes, le médecin est appelé le hakim, ce qui veut dire le sage. Et c'est une explication de plus au fait que j'écris.
Dans un de tes derniers billets, tu parles du sectarisme chez les yéménites, c'est ça ? Et c'est un sujet qui est totalement d'actualité. Il y a eu des combats à Sanaa tout récemment. Et tu as tendance à renvoyer un petit peu tous les acteurs du conflit au Yémen dos à dos. Imaginez maintenant, et si Nelson Mandela était Houthi? Donc Houthi, c'est une référence à l'organisation insurrectionnelle zaïdite qui s'attaque en ce moment au pouvoir à Sanaa et qui vient d'ailleurs de jeter le troupe dans la capitale. Donc je reprends. Imaginez maintenant, et si Nelson Mandela était Houthi? Imaginez si c'était Abdelmalak el-Houthi, qui est le chef des Houthis, qui avait fait 28 ans de prison au lieu de Mandela. Dans quel état d'esprit serait-il sorti de sa prison? Imaginez si les Houthis étaient les Noirs d'Afrique du Sud, qu'ils avaient vécu toute cette souffrance. Mandela est sorti de prison en souriant, étrennant son épouse devant les écrans de télévision. Et ses premiers mots étaient pour la paix et la réconciliation, pour la fin de la lutte armée. Au lieu donc de faire exploser des quartiers généraux, des partis adverses, leurs maisons, cet homme, Nelson Mandela, a mené tous les partis dans leurs différences vers une démocratie multiculturelle et il a construit dans la fierté la nation arc-en-ciel.
Nous sommes au Yémen.
Nous, au Yémen, nous sommes au milieu des problèmes et la raison principale est la division et le communautarisme et les partis politiques et chaque parti politique a son propre agenda. Et après 5 ans d'instabilité, je constate que il n'y a pas de solution dans l'immédiat au Yémen. Et je me suis dit alors, pourquoi ne pas prendre exemple sur des expériences qui ont lieu ailleurs dans le monde, dans des pays qui ont connu des situations difficiles et qui ont réussi à s'en sortir. Et j'ai choisi l'expérience sud-africaine et indienne parmi les plus connues, et des expériences dont je me sens proche parce qu'elles prônent un dialogue et une ouverture pacifique plutôt que la guerre.
Je continue à te citer. Ô Yéménite, révisez vos cœurs et votre raison. Et vous verrez que vous êtes une copie de ces gens malveillants qui portent en eux la rancune et combattent l'autre en pensant que eux font partie d'une élite choisie. Sachez que ce sont les gens d'exception qui changent le monde. Et les gens d'exception ne naissent pas du ventre du sectarisme et ne têtent pas les seins du harcèlement et de la persécution. Soyez donc exceptionnels.
Il s'agit là de la conclusion de mon billet de blog. Et je voulais adresser ces mots à la plupart des Yéménites qui se sentent plus appartenir à leur parti politique, à leur clan, à leur communauté, plutôt qu'à un pays. Parce que le pays ne se construit pas dans la division, mais dans l'unité. L'unité ne signifie pas imposer à la majorité les opinions du plus fort, mais ça vient avec la construction d'un modèle consensuel.
Tu viens de publier un livre qui s'appelle Le mur de Pizé. C'est une manière de faire les murs qui est typique du Yémen en terre. Un mot sur ce livre.
C'est un rassemblement de récits, en tout 110 textes. Il n'y a pas de sujet particulier, mais je peux dire que c'est un ensemble d'expériences de ma vie dans lesquelles je parle de moi-même mais aussi des autres. Il traite de sujets personnels et généraux. J'ai adapté la langue et les idées, la littérature et la philosophie.
Bonjour Haïdar Ndar.
Ahlan wa sahlan.
Tu es journaliste, sahafi et blogueur. Tu vis à Diwaniya, c'est-à-dire à 180 km au sud de Bagdad, en Irak, c'est ça ? D'abord, peut-être quelques mots sur la vie et l'activité de journaliste et de blogueur dans ton pays aujourd'hui.
Naturellement, la situation en Irak est connue de tous. L'Irak est divisé en deux, le centre et le sud du pays sont relativement sûrs. Mais les régions à l'ouest de Bagdad sont des régions chaudes et en guerre. Évidemment, ce ne sont pas des régions où la vie est facile. Ce sont des régions d'où beaucoup d'habitants ont fui. Les Irakiens sont réfugiés, déplacés ou morts. Et c'est la vie quotidienne en Irak.
Et en tant que journaliste ?
Naturellement, le travail de journaliste en Irak est extrêmement dangereux, selon les rapports d'ONG. Et c'est une des zones où le travail de journaliste est le plus dangereux. Très régulièrement, on apprend qu'un journaliste a été tué. Et moi-même, avant de venir à cet atelier, j'ai appris qu'un journaliste avait été tué en reportage dans la région d'Anbar. Et deux journalistes ont été kidnappés à Mossoul. Et on voit que le métier journaliste est vraiment très dangereux en Irak. Sans parler des arrestations qui ont lieu de la part des forces gouvernementales et les pressions sur les libertés des journalistes. Ainsi va la vie de journaliste en Irak.
Tu as participé récemment un rassemblement de jeunes Irakiens dans la région de Chiklawa, c'est près de Erbil, donc dans le Kurdistan irakien. Et tu en es revenu assez ému, tu as écrit un billet qui s'intitule « L'État islamique m'a appris l'humanisme ». Pendant ce forum, cette rencontre de 8 jours, toutes les composantes de la société irakienne étaient rassemblées. J'ai pu rencontrer, fréquenter des chrétiens, des yézidis, des kurdes, des turkmènes, des kakaïs, des bahaïs, des musulmans, chiites, sunnites. Contrairement à ce que nous disent les communautaristes et les extrémistes, j'ai découvert que le sunnite a été contraint de fuir sa ville et qu'il vivait dans l'humiliation du déplacé, que le chrétien a été forcé de partir de chez lui et que des membres de sa famille ont été tués. J'ai découvert dans ces rencontres une humanité qui avait disparu à cause des mauvaises politiques et des médias inféodés à tel ou tel parti. En quittant les personnes que j'avais rencontrées, j'ai pleuré et aujourd'hui, il me manque. En forçant les Irakiens à l'exil, Daesh, l'organisation de l'État islamique, les a en fait rapprochés et leur a appris l'humanité.
Dans cet article, j'ai d'abord voulu interpeller avec le titre, parce que les Irakiens sont un ensemble très divers de communautés et de religions, et c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas comme ça que les politiciens veulent que l'on se figure notre société. J'ai vécu avec ces personnes pendant 8 jours, et on n'a eu aucun différent. Et même si moi j'étais musulman, qu'un autre était chrétien, un autre yézidi, on était tous rassemblés dans un même espace. Et ça, c'est une réponse au message véhiculé par les médias orientés politiquement. Par exemple, on considère en Irak que les sunnites sont favorables à l'organisation d'État islamique Daesh. Mais j'ai pu me rendre compte à Chiklawa, dans le nord de l'Irak, que les sunnites forment la majorité des réfugiés. Chiklawa est une toute petite ville du Kurdistan, dont le nombre d'habitants est d'environ 25 000, et qui accueille environ 40 000 réfugiés sunnites, qui viennent des régions d'Anbar et de Salahuddin, et ils représentent donc plus d'une fois et demie la population habituelle de Chiklawa. Et il y avait également des yézidis parmi nous dans ce camp. Ils sont une minorité religieuse dont les femmes ont été enlevées par Daesh à Mossoul. On parle là d'environ 4000 femmes. Des milliers d'autres ont été tués et on ignore le sort d'une grande partie d'entre eux. Des médias partisans ont applaudi ce massacre alors que les Yézidis sont des Irakiens comme nous.
Qu'est-ce que ça t'apporte le blogging? Parce que tu fais du journalisme, tu écris. Qu'est-ce que ça t'apporte le fait d'écrire sur le blog dans ce contexte?
On sait que les journalistes sont soumis à la censure, alors que le blogging offre un espace de liberté. En résumé, c'est la principale raison pour laquelle j'alimente ce blog. Pour relayer la réalité du terrain et qui n'est pas rapportée par contre dans les médias. Et c'est pour ça que j'associe à la fois le blogging et mon travail de journaliste.
Bonjour Soraya Kasmi.
Bonjour.
Toi, tu es journaliste, blogueuse, tu es originaire de Kasserine, c'est ça, dans le centre-ouest de la Tunisie, c'est ça?
مرحبا بكم في تونس قبل كل شيء.
D'abord, bienvenue à tous en Tunisie. Je suis journaliste correspondante pour la radio IFM. Je travaille également en tant que correspondante pour la chaîne de télé Tabza TV. Et je tiens également une plateforme de blog en arabe.
Tu es donc un petit peu une des représentantes locales de la communauté. Enfin, tu es une locale de l'étape, c'est comme ça qu'on dit en français. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont venus de 9 pays différents du monde arabe. Toi, tu es la Tunisienne d'abord. Qu'est-ce que c'est ton regard sur ce qui s'est dit jusqu'à maintenant de la part des autres blogueurs?
Concernant les expériences yéménites et irakiennes et libyennes également, il s'agit là d'expériences variées. Ces expériences parlent des premières révolutions que connaissent le monde arabe. Évidemment, ces événements ont connu des pertes humaines importantes. Et l'un des seuls acquis est cet espace de liberté pour les peuples arabes. Et en tant que journaliste, je m'intéresse particulièrement à mes confrères et j'essaie de les encourager dans leur travail. Et vu de Tunisie, on se rend compte que les conditions dans lesquelles ils travaillent sont beaucoup plus compliquées. Mais cela ne doit pas faire oublier qu'en Tunisie également, on rencontre des difficultés.
C'est-à-dire ?
Par exemple, à Kasserine, c'est considéré comme une zone de conflit, puisque c'est dans cette région que se concentrent la plupart des opérations militaires, mais également les opérations terroristes qui ont lieu dans les montagnes proches de Kasserine. Et nous, en tant que journalistes, on a du mal à accéder à l'information en raison des restrictions imposées par les forces de police et d'armée. Et on se rend bien compte que les autorités ne nous transmettent que les informations qu'ils ont envie de faire publier dans les médias, et se garde bien de nous transmettre les informations plus sensibles. Et du coup, on a un peu l'impression de se retrouver entre le marteau du terrorisme et l'enclume des forces de sécurité.
Et toi notamment, tu as couvert en tant que journaliste et blogueuse les différentes attaques des islamistes dans la région de Chambi, donc dans les montagnes autour de Kasserine, dont la dernière en juillet 2014, qui a coûté la vie à 15 militaires tunisiens.
S'agissant de n'importe quel journaliste dans une zone de conflit, il doit être prêt à tout moment, de nuit comme de jour, pour être mobilisé en cas d'attaque terroriste. Et personnellement, en tant que femme journaliste, c'est particulièrement compliqué puisque les attaques ont généralement lieu assez tard dans la nuit. Et l'une des attaques qui m'a le plus choqué, à laquelle j'ai assisté personnellement, a eu lieu en 2013 dans les monts Chambi, opération lors de laquelle 8 soldats sont morts. Et comme le mont Chambi est une zone militaire, l'accès aux civils et aux journalistes est complètement interdit par l'armée. Et le seul endroit où on pouvait exercer notre métier était l'hôpital de Kasserine. Donc je me suis rendu dans cet hôpital. On a assisté à l'arrivée des soldats morts et blessés en provenance de la montagne Chambi. C'est dans cet hôpital qu'ont lieu les autopsies des corps des victimes. Et d'une certaine manière, j'ai réussi à pénétrer dans l'endroit où se pratiquaient les autopsies. Et c'est vraiment là que j'ai été choqué. Deux des soldats étaient égorgés d'une oreille à l'autre. J'ai vraiment été traumatisé par ce que j'ai vu. J'en ai perdu le sommeil pendant 2 semaines. On demande aux journalistes d'aller chercher l'information et de la transmettre, mais sans forcément se préoccuper des conséquences psychologiques sur eux-mêmes. J'ai pu avoir des images, mais je n'ai pas osé les diffuser par égard aux victimes et aux soldats. Et par égard aussi au public qui aurait pu voir ces images. Avec la répétition des événements et des attentats, j'ai commencé à m'habituer à être choqué et c'est devenu une habitude. Et maintenant, je peux intervenir dans n'importe quelle situation.
Tu écris, ça c'était en août, donc dans un billet récent qui a pour titre « Entre la révolution et ses revendications, le Tunisien récolte le terrorisme ». Des bandes criminelles ont manipulé des centaines de jeunes Tunisiens avec des discours débités au nom de l'islam. Ils ont envoyé ces jeunes en Syrie et en Irak, pleins d'idées terroristes qui ont aujourd'hui détruit la vie de ces jeunes et de leurs familles. Les jeunes Tunisiens qui étaient cités en exemple sont maintenant devenus aujourd'hui de simples objets aux mains de ces vampires. Et aujourd'hui, ils donnent une mauvaise image de la Tunisie, l'image du meurtre, des décapitations, de la terreur. Et bien sûr, tu fais référence aux 2-3 000 Tunisiens présents dans les rangs de EI, donc de l'Organisation d'État islamique. Ça, c'est une estimation officielle. Et présents aussi, plus généralement, en Irak et en Syrie, aux côtés des djihadistes.
Ce n'est pas un secret que la Tunisie exporte ses jeunes vers la Libye, l'Irak, la Syrie. Nous savons qu'au début de la révolution, tous les Tunisiens, les jeunes comme les vieux, les femmes, ils sont sortis dans la rue tous ensemble pour demander la chute de la dictature. Mais ces images qu'on a pu voir à ce moment-là ne correspondent plus à la réalité aujourd'hui. Et c'est une des conséquences de l'arrivée au pouvoir des islamistes. Ils ont divisé jusque dans les familles, au niveau des idées, bien sûr. Les conflits entre les différentes régions, entre le nord et le sud, et ça s'est accentué pendant les élections. Dans la plupart des familles tunisiennes, on compte au moins un jeune parti faire le djihad en Syrie, en Libye et dans les autres terres de djihad. Et ils ont même rejoint des maquis en Tunisie. Les jeunes réclamaient du travail à l'échelle nationale et sont devenus des terroristes à l'échelle internationale. C'est pour expliquer ça que j'ai écrit cet article dans mon blog.
Bonjour Makarios Nassar.
Alain Nassar.
Tu as 26 ans, toi ? Tu es égyptien, tu vis au Caire, tu as grandi dans le quartier qu'on appelle le quartier des chiffonniers parce qu'il est célèbre pour abriter les chiffonniers coptes, c'est-à-dire les chrétiens d'Égypte. Ton blog s'intitule d'ailleurs « Depuis le quartier des chiffonniers ».
Oui,
j'ai effectivement grandi dans le quartier des chiffonniers. J'ai des souvenirs douloureux de cette période. Mes parents ont émigré de la Haute-Égypte quand j'avais un an. Et donc j'ai vécu toute ma vie dans ce quartier des éboueurs et des chiffonniers. Un peu comme si Dieu m'avait jeté parmi les chiffonniers. J'ai joué au football dans les rues du quartier des chiffonniers depuis que j'ai l'âge de 9 ans jusqu'à mes 20 ans. Et j'ai alors décidé de rejoindre l'équipe nationale égyptienne. Et j'ai été refusé parce que j'étais copte, donc chrétien. Et comme moi, en fait, des milliers de coptes sont privés justement de participation dans l'équipe de football. Et en plus de la discrimination religieuse, la vie quotidienne dans le quartier des chiffonniers est très difficile. Et si je vous décris ce quartier, c'est un regroupement de personnes divisées en 5 quartiers qui collectent, trient et nettoient les déchets de toute l'Égypte. Chaque jour, juste pour le Caire, ce sont 18 000 tonnes de déchets qui sont produits.
Et donc, dans ton blog, tu t'intéresses à la situation de cette minorité, cette grande minorité qui représente, on dit, au minimum 10% de la population égyptienne, donc 6-7 millions de personnes au minimum. Dans un billet daté du 22 novembre 2014, intitulé « Pourquoi le roman 1984 effraie le régime ?», tu réagis sur l'arrestation au Caire d'un étudiant, le 11 novembre, quelques jours avant, parce qu'il avait en sa possession le roman de George Orwell, 1984, c'est ça ?
Ça y est.
Et tu écris ?
فمن الغباء إذا اعتقد السيسي أن بمدرعاته وأسلحته يمكنه.
C'est vraiment bête de la part du président Assisi de penser qu'avec ses chars et ses fusils, il peut faire taire les étudiants et endormir leurs esprits à l'ère de Facebook et de Twitter. La preuve, après l'arrestation de cet étudiant, le roman de George Orwell s'est répandu de manière virale sur les réseaux sociaux et le moteur de recherche Google.
J'ai été très surpris en apprenant cette arrestation pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que moi j'ai manifesté contre le président Morsi. Je fais partie de ces millions de gens qui ont applaudi l'intervention de l'armée, mais je ne m'attendais pas à ce que ça se transforme en coup d'état militaire. Et ce qui s'est passé ensuite, avec les actions du nouveau gouvernement, notamment contre les libertés, a bien montré qu'il s'agissait d'un coup d'état militaire. Et j'ai écrit sur mon blog que le peuple égyptien s'est divisé en deux, entre les supporters du coup d'état militaire et ses opposants. Mais on s'est bien rendu compte, en raison de ces actions, qu'il s'agissait d'un coup d'état militaire.
On va conclure cette émission par un tour de table. On a bien entendu tout ce que vous avez dit. On comprend d'abord que vous êtes jeune, que vous êtes beaucoup plus ouvert d'esprit que ce qu'on pourrait imaginer en voyant l'actualité, en écoutant les choses de loin. La plupart des messages envoyés aujourd'hui par vos pays, par nos pays, ce sont les décapitations de masse, les blogueurs et les militants emprisonnés qui sont harcelés également à Bahreïn, c'est la guerre en Syrie, au Yémen, en Libye et en Palestine. Comment est-ce qu'on peut faire pour faire émerger vos voix, vos regards, comment est-ce qu'on peut faire pour que la voix qui est empruntée par ces pays soit celle que vous êtes en train de choisir vous et pas celle qu'on a l'impression de voir arriver un petit peu partout? Et dans cette question, qu'est-ce que ça apporte à vos yeux, le blogging, l'internet, les médias sociaux qui sont en tout cas en grande partie vos outils? Makarios, pour l'Égypte.
Le projet ArabBlog m'a ouvert les portes de la liberté et m'a permis de concrétiser ma liberté. Si les pays arabes veulent aller d'avant, ils doivent accepter les différences.
Thraya Kasmi, donc de Tunisie.
J'ai deux messages. Le premier pour les journalistes et les blogueurs. Ils doivent s'unir, qu'ils viennent des pays arabes ou du reste du monde, pour organiser des rencontres et des débats, pour faire émerger des règles et des lois, pour protéger la liberté de la presse et du blogging, parce que justement ces libertés sont en danger. Mon deuxième message s'adresse aux pays arabes, mais aussi au reste du monde. Ils doivent avoir une main de fer pour extraire la vermine de Daesh, l'État islamique, qui menace tous les pays en prenant en considération leur puissance, leurs actions, leur propagande, qui portent atteinte même aux pays étrangers. Les États du monde doivent s'unir parce que Daesh prospère sur les divisions linguistiques, culturelles, religieuses et intellectuelles. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit très bien dans le cas irakien.
En parlant de l'Irak, c'est à toi, Haïdar Endar, de parler.
Naturellement, le rôle des réseaux sociaux est important. Ils ont conduit à des changements de régime dans les pays arabes. Il faut qu'on continue à les utiliser. Mais nous avons besoin de l'aide internationale pour soutenir nos idées, en organisant des ateliers, des débats entre les blogueurs du monde arabe, pour lutter contre l'obscurantisme et promouvoir la paix.
Sana de Aden et du Caire.
L'extrémisme et la division ont toujours existé et continueront d'exister. Et donc notre seul choix est de poursuivre. Et d'ailleurs, Churchill disait, quand tu traverses l'enfer, surtout, continue d'avancer. Nous sommes tous différents, c'est dans la nature humaine d'être différent, mais c'est dans notre façon de gérer cette différence que l'on aboutira à des résultats positifs ou négatifs.
Ahlam qui vient de Benghazi en Libye.
La détermination à rejeter la violence et à vivre en paix nous aide à affronter les difficultés et à exercer notre liberté d'expression.
Anwar d'Algérie pour le mot de la fin.
Alors je voulais dire que c'est toujours là ce qui n'est pas le roi. Alors on ne doit jamais combattre une idée par la violence, utilisons la violence, parce que ça n'aide à rien et ça sert à rien, quoi. Et voilà. Alors, merci.
Merci à toi, merci à tous les six. On retrouve vos blogs et une bonne cinquantaine d'autres sur le site arablog.org. Je signale que nous avions avec nous donc 20 blogueuses et blogueurs à Tunis. Nos pensées à Mohannad El Barri, qui est un de nos contributeurs palestiniens de Gaza, qui n'a pas réussi à sortir de son pays. Nos pensées aussi à Wissam Salem de Benghazi, qui lui a été bloqué par la guerre. Si vous souhaitez rejoindre Arablog pour raconter votre quotidien en arabe, un concours va bientôt être lancé pour recruter de nouvelles contributrices, de nouveaux contributeurs. Restez à l'écoute. Si vous avez un projet média, le fonds Eptikar, co-géré par CFI et la fondation Samir Kassir notamment, et également par Babelmed et Annaline, va faire bientôt un nouvel appel d'offres. C'est d'ici quelques semaines. Restez donc connectés.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
C'était l'émission numéro 370 de l'Atelier des médias, proposée par Marie-Catherine Beuth, Francis Pisani, Manon Mella, Mélissa Barad, Dilette Sadawi, Joul Nardouek, Raja Yahyaoui, Simon Decreuse, Jamel Belayachi, Rachid Chérif et Ziad Malouf. Si vous êtes parisienne ou parisien, l'équipe de l'Atelier vous donne rendez-vous mercredi prochain, c'est-à-dire le 4 février, pour l'enregistrement de son émission en public au Tank. Exactement, c'est à 19h au 22 bis rue des Taillandiers dans le 11e arrondissement. Avec nos invités, nous nous demanderons qui gouverne l'Internet. Une table ronde organisée avec la revue Politique étrangère à l'occasion de la sortie de son numéro d'hiver dont le dossier principal a pour titre Internet, une gouvernance inachevée. Le 5 février, nous serons à Numa, toujours à Paris, avec nos amis de Street Press pour parler des médias participatifs faits par les jeunes, pour les jeunes. Il y aura notamment Fully Focused, un collectif anglais qui est né après les émeutes de Londres, et probablement aussi Corrique Magazine, je ne sais pas si je prononce bien, de Bosnie-Herzégovine. N'hésitez pas à nous suivre, nous lire, nous contacter sur Twitter, Facebook, atelier.rfi.fr, mondoblog.org, libiablog.org et bien entendu arablog.org. Merci pour votre écoute, vos réactions, vos encouragements. Salut à toutes et à tous.
C'est fini ou c'est pas fini?
Ah ouais, les bonus.
Les bonus.
Les bonus.
Ben, ça continue sur Internet.